You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga.
Extrême violence. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir?
Dites-le nous.
Oui. Peut-être.
Ce sont pas des propos qui sont à même d'apaiser.
Pardon, ce sont des propos qui clarifient. Quand le gouvernement utilise l'extrême violence pour agresser nos compatriotes qui manifestent, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec toutes celles et ceux qui sont au RSA? Et ça, ce sera dans les réformes les plus importantes à venir, c'est-à-dire l'extrême violence renforcée pour les ordures bénéficiaires du RSA, vos enfants, deuxième cap, l'ordre républicain. Mmh. 200 brigades de gendarmerie, pas besoin de loi pour faire ça. Et à côté de ça, une loi de programmation militaire qui va arriver pour nos armées et nous protéger. Voilà le cap. L'ordre républicain et l'extrême violence.
Les Français commencent à se lasser, on l'entend dans nos reportages.
Mais ils ont raison.
Depuis le début
et donc,
de la semaine.
Je le dis, on ne tolérera aucun débordement. Il y en a qui ne bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par l'extrême violence. Et donc, je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, les violences, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles. Et donc, on doit aller beaucoup plus loin. On a tous une part à donner. Et donc, on va continuer
l'extrême violence.
La violence, on l'apprend déjà à l'école, là où la violence nous prend, mais la violence nous colle. Alors certains frères, eux, ont honte d'être pacifistes. Pourquoi tant de violence ironique, ironique,
ironique. Regarde les acteurs du secteur, facteurs de peine de prison, lecteurs de faits divers,
terre, disons.
Les cités sont devenues une jungle où les stupes épinglent, les dealers grâce aux balances ou flingues. Mais de toute façon, ça schlingue la corruption jusqu'à l'Elysée. Et lors du manif, je suis le genre à dévaliser les magasins en criant
CRSSS.
Frère blesse, mais quand ils chargent, on se baisse, 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 baisse. Direction la thèse, thèse, zaza, wesh, la baisse, baisse.
Dis-moi, t'aurais pas 5-20?
Si, si, alors je fourgue un vieux 15G plastifié à la cire de bougie au pneu RG.
RG,
ton indique est mort. Sache qu'ici on mange pas de mais les flics, on ment.
Et jusqu'à la mort,
on se soumet au silence. Crée la violence dans les hauts.
On nous appelle la délinquance.
Monsieur, on débarque comme la fin de ce monde où l'homme suce des putes et se prend pour une bonne blonde. Ah, si, monte comme un tox qui spit ou comme un ivrogne qui tape un coma itilique. Là le prototype Mike Flinger, Sidebanger, Junai, Gouffreur, Monsieur, on traîne pour la mort d'un terre-terre. Celui qui cagoule et débarque, qui défonce ma porte, braque ma famille
avec son arme de Robocop.
Top, top, ce coup-ci pour lui c'est fini. Plus de grouille à Hagra, plus d'embrouille,
plus de papier de minuit.
Mais y'en a plein d'autres qui créent la violence lors d'un contrôle. Dis-moi, qui est donc la délinquance? Ça pourrait être la télé
qui crée la violence.
Ça pourrait être ce monde de fêlé
qui crée la violence.
Ça pourrait être l'esprit emmêlé
qui crée la violence.
À
après cette vie au violon, je serais violent. Sur pure plage, je passerai ma vie au long.
Yo, certains dans la vie se demandent d'où vient la violence. Qui l'a créé, qui l'a subi. Peut-être ceux qui n'ont pas de chance. Allez, arrête de charger, dis plutôt que ça vient des quartiers. Où sont vachés à construire des gens de couleur, noir ou pas. Allez, c'est là ce que les gens pensent ainsi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Juste de les faire taire. On leur prouve au contraire. À chaque contrôle de police, demande-leur qui crée la violence. Pour eux, c'est les jeunes, sans aucun doute, ça a eu une influence. Mais quand un adolescent se flingue dans un commissariat, qu'est-ce que tu dis, hein? Qu'est-ce qu'on pense obligé de niquer Darwa? Pourquoi violence? On est chômeurs et les étudiants. Du temps qui demande des aides, c'est fini de s'exprimer poliment. Manifestation, cachage de vitres, explose tout sur le passage. Et ouais, personne n'y échappe. La violence, ça pourrait être la télé qui en est responsable. T'es dans pas si demain tu me vois plus, c'est un gars.
J'avise déjà, en l'an zéro, y'avait des grosses violences. La résistance, même pour du feu, des gros coups de lance. Quelle coïncidence! Et pense quelles sont les conséquences. C'est que dans cette bande de pute à la base on n'a aucune chance. Quelle bonne science. Ouh, tu te fous de ma gueule, je fais silence. Et me démonte par des coups de gueule. Là je suis en transe. Mais heureusement je fais que moralement. Des fois inconsciemment même. Ma main légifle assidûment. C'est le déroulement de la vie. Regarde les faits qui se passent dans le monde. Y'a trop de gens sans abri. Des tonnes de plus en plus de bombes. Donc dans un monde immonde, que faire? Sauf être violent. Y'a que les coups de pression qui marchent. Et les frères qui montent en bilan. Ou en kilant. Quand la saison se fera en yoyant. Ou en braquant. Si ça c'est ça, on veut du danger. Brown speaks, the bell, du chanson. Ça pourrait être l'exclusion.
Qui crée la violence?
Un voleur surpris dans ma maison.
Qui crée la violence?
Une trop grosse peine de prison.
Qui crée la violence?
Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violon.
Ça pourrait être un regard déplacé.
Qui crée la violence?
Une bavure et décès.
Qui crée la violence?
La jalousie due au succès.
Qui crée la violence? Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violon.
Ça pourrait être ces fachos du FN.
Qui crée la violence?
La haine envers ce système.
Qui crée la violence?
Une vie de chat qui me pose des problèmes.
Qui crée la violence? Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violon.
C'est ce jeune Toulousain abattu à corps. Ces flics FN qui valent peu mon corps.
Qui crée la violence?
Mes yeux trop foncés, des ma peau foncée.
Qui crée la violence?
Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violon.
Wesh Ismaili, comment ça se passe?
Ça se passe tranquille.
J'ai entendu des trucs comme quoi à l'école ça allait mal.
Ouais, je sais, c'est à propos de ma prof là.
Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Parce qu'elle m'a appelé, je suis pas venue. Après, elle est venue sur le terrain de foot. Elle a voulu mettre une claque.
Arrête.
Bah après, moi j'ai enchaîné direct.
Et t'as pas essayé de parler avec elle?
C'est elle qui a pas essayé de parler avec moi. Parler avec moi, parler avec moi.
Hey, il est vendredi, on est 19h passé de quelques minutes, c'est Canal B, c'est Frisson, salut les auditeurices, salut Lulu.
Hey, salut Guigui, comment
je
ça va?
Je sais que t'aimes pas qu'on dise ça, ouais.
Bon, je m'en fous.
La frange break chorus de notre groupuscule, on a aussi en invité exceptionnel Kipik ce soir. Comme par hasard.
Salut, salut.
La frange, on peut dire islamo-valsiste.
Mais bien sûr, si tu veux. De toute façon, tout ce que tu dis, je peux pas le contredire. T'as le micro.
Voilà. Et Gwendo, la scission bulliste de l'affaire.
J'aurais plutôt dit la frange d'en bas, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Mais bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous.
Donc, vous allez bien? J'attends un petit retour collectif sur cette question.
Oui, oui, moi j'ai répondu à cette question.
Alors moi les gars, je vais pas, les gars, les meufs, Yael, tout ça, je vais pas vous mentir, je pète pas la forme. Enfin, je vais pas vous dire que je pète la forme parce que un, ça serait pas vrai. Et puis de deux, j'ai pas envie d'attiser les poudres de qui que ce soit derrière le poste. Mais voilà, et vous-même, Billy.
Mais non, mais si t'attises les poudres, elles s'envolent, c'est pas grave. Hein. Enfin bref. On a des invités ce soir, Nat, Nouche et Titoun, comment allez-vous?
Salut.
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 Alors il faut dire qu'on a, rencontré, Ludo et moi avons rencontré Nouche il y a un mois ou deux au cours d'un...
Trois semaines. Hein.
Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire.
C'est tout, c'était il n'y a pas longtemps.
Oh, et c'est important l'exactitude journalistique et la rigueur, c'est important. Donc on a rencontré Nouche à un concert de soutien aux inculpés dits de l'affaire du 8 décembre, un concert de soutien qui avait lieu au centre social Carrefour 18 à Rennes. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il faut qu'on les invite à Frisson.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Et donc, ça nous a obligés à nous renseigner sur cette affaire du 8 décembre, dont personnellement, moi, je ne connaissais rien avant le concert de soutien, comme quoi ça, la propagande fonctionne.
Comme quoi ça sert à quelque chose de venir faire des soirées de soutien.
Et que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venue.
Et que moi, je n'ai appris ça que par l'entremise de vous deux, mais je crois qu'on vous appelle communément l'affaire du dossier des punks à chiens.
C'est la DGSI qui a mis ce mot-là ouais, sur leur dossier. On n'a pas repris bizarrement l'appellation.
J'aurais une première question pour vous, chers invités .e.s. C'est comment on dirait punk à chien en inclusif?
Punk à chien?
L'idée, c'est de même pas reprendre leur terme en vrai.
Tu dis inclusif pour le punk ou pour le chien?
On se demandait si ça serait punk à chienne, mais non, il y a quelque chose qui cloche là.
Bon, je propose qu'on se laisse du temps pour réfléchir à la réponse. Pour expliquer un peu, enfin en tout cas pour avant de vous donner la parole, pour poser un peu le sujet par rapport aux auditeuristes. L'affaire du 8 décembre, donc 2020, si je ne m'abuse, concerne 7 personnes qui sont inculpées. Le procès a démarré le 3 octobre de cette année 2023 et est prévu pour durer jusqu'au 27 octobre. C'est 7 personnes qui sont jugées par la 16e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour une affaire qui, alors d'après les articles que j'ai lus, fait beaucoup penser à celle de Tarnac. Vous nous direz si... vous aussi, c'est le cas. Est-ce que vous acceptez le parallèle?
Oui, c'est clair qu'il y a des parallèles à faire et tout le monde le fait. C'est sûr, surtout parce que en fait, les personnes sont jugées, sont pointées du doigt par ce qu'elles défendent politiquement. Donc là, il y a un gros parallèle à faire. Il y a un autre parallèle, c'est le fait que ça soit jugé en antiterroriste. Sauf que dans l'affaire de Tarnac, ça a été levé cette partie-là. Donc c'était une association de malfaiteurs, mais ils n'ont pas été jugés en antiterro. Et l'autre distinction qui est quand même de taille, c'est le fait qu'ils étaient jugés sur un fait de sabotage, en fait.
C'était les caténaires d'une ligne de TGV.
Ouais, c'est ça. Et donc, ça avait été revendiqué par d'autres personnes. Bref, ils étaient jugés par rapport à cet acte-là précis. Et là, dans l'affaire du 8 décembre, il n'y a pas d'acte précis. Ils sont jugés sur des suspicions d'intention de commettre on ne sait pas quel acte qui n'est jamais défini précisément dans le dossier, en fait. Ouais. C'est même d'ailleurs écrit noir sur blanc qu'il n'y avait pas d'actes, alors ni d'intention d'actes en particulier, ni d'entraînement pour une milice, parce que c'est les deux suspicions qu'il y a, c'est qu'ils fassent des entraînements pour créer une milice d'anarchistes en France, quoi. Pour atteindre l'État, la police...
L'oppression et le capital aussi.
Ouais, en fait, c'est nommé comme ça. En fait, ils disent au début, pour les représentants de l'État, de la police, l'armée, tout ça, les symboles de l'État, ça devient de plus en plus vague. Et à un moment donné, ils disent, en fait, ces personnes voulaient s'en prendre à l'oppression et au capital. Alors là, on dit, ok.
Je pense qu'on peut faire aussi une toute petite distinction intéressante sur... la classe sociale qui est pas la même là, c'est pas des personnes issues d'un niveau de vie, d'un niveau de relation, de soutien journalistique, etc. qui fait bien la différence sur la manière aussi d'invisibiliser cette histoire et aujourd'hui encore plein de gens ignorent complètement ce dossier en fait.
Oui, mais la presse en parle quand même beaucoup, non?
Oui, la presse en parle. Après, en ce moment, elle en parle un peu, effectivement, elle en parle plus. Mais pendant longtemps, elle n'en a pas parlé aussi. En fait, il y a eu une première vague médiatique. Mais juste pour revenir sur les différences et sur les personnes qui sont inculpées, il y a aussi le fait que ce n'est pas un groupe. En fait, là, les personnes qui sont inculpées dans cette association de malfaiteurs ne se connaissaient pas toutes entre elles. Bon, là, elles se sont rencontrées toutes pendant le procès, mais elles ne s'étaient pas rencontrées toutes avant. Et ça, c'est vraiment une grosse différence qui fait que c'est vachement difficile aussi de se, d'être ensemble dans une même affaire, en fait, de se défendre ensemble.
Ouais, ouais. Parce que donc l'affaire de Tarnac, ça date de 2008, je crois. Mm-hmm. Et donc, le nom qu'on a peut-être retenu, c'est Julien Coupa. C'est des gens qui vivaient dans une même ferme en communauté. Je ne sais plus s'ils avaient déjà publié ou s'ils l'ont publié après c'était quoi, le Comité Invisible. C'est un bouquin qui s'était bien vendu et dont on avait beaucoup parlé. Et donc, il y a un sabotage de ligne. De ligne de TGV, un TGV d'ailleurs qui était censé transporter des déchets nucléaires, hein, donc il y a aussi déjà ce qu'on appelait pas à l'époque l'écoterrorisme, mais il y avait cette idée là, hein, c'était quand même un acte de sabotage qui avait qui défendait un idéal écologiste. Et donc il y a ces inculpés qui ont finalement tous été relaxés faute de preuves. Donc vous dites la différence. Donc c'est un fiasco en fait, cette affaire un fiasco. Et à l'époque la ministre de l'Intérieur de l'époque c'était Michèle Alliot-Marie qui avait dit que c'était l'ultra gauche mouvance anarcho je ne sais plus quoi. Anarcho-autonome, exactement. Et donc, le lien est fait par des journalistes entre l'affaire du 8 décembre, parce que on reparle de terrorisme d'ultra-gauche. Et donc, c'est le lien qui est fait. Et au vu de ce qu'on lit dans la presse, la faiblesse des charges laisse penser aussi un possible fiasco judiciaire et policier, même si le procès n'est pas terminé. Alors, et que l'époque est différente.
Moi, je trouve le retentissement de l'affaire de Tarnac dans le moment où s'ouvre le procès, parce que, comme vous avez dit, il y a une invisibilisation complète de cette histoire. C'est resté sous les radars des milieux militants, alors que dans les partis politiques, on en parle. Mais ça n'a pas crevé le mur du son, quoi. Et si on en parle maintenant, c'est en effet qu'il y a des parallèles qui sont à faire. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas le parallèle ou les différences, c'est la continuité. C'est de voir réellement ce qui s'est passé depuis 2008. Et l'affaire de Tarnac répondait à quelque chose de la construction d'un ennemi intérieur de gauche dans un contexte sarkozyste où il n'y a pas encore, où on est en train de forger les lois antiterroristes. Et ça échoue. La droite au pouvoir échoue à avoir ces terroristes de gauche.
Et depuis, il y a Charlie Hebdo, voilà. Le Bataclan, et donc ça, forcément, ça aide. Un gouvernement qui a envie de prendre des mesures.
Alors juste je rappelle, la plupart des faits qui sont reprochés, qui sont montés dans le dossier de l'affaire de Tarnac, c'est des surveillances qui ont eu lieu avant l'arrivée de Darmanin. Et ce qu'on aperçoit, si vous lisez les derniers articles de presse qui essayent de faire les minutes du procès, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une partie de la surveillance qui est faite avant Darmanin, qui passe sous les radars, mais ça devient utile à Darmanin quand il est élu, parce qu'il a besoin, à ce moment-là, entre autres, je ne dis pas que ça n'est que ça l'objectif, mais je dis que celui-là, il est central, parce qu'à ce moment-là, ils sont dans un narratif que... on sortait du terrorisme islamiste, là ça, on y revient aujourd'hui de manière dramatique, mais on rentrait dans qu'on commençait à compter les terroristes de l'ultra-droite, de l'extrême-droite. C'était les événements qui montaient en puissance dans toute l'Europe, au moment où l'Europe va vire vers l'extrême-droite, tombe dans l'extrême-droite. Donc il fallait... ce narratif-là contrebalancé, et je rappelle que c'est dans un contexte où à gauche alors que Méluche pour moi c'est le Parti Socialiste par exemple, il est considéré comme limite tu vois les Brigades Rouges quoi, tu vois, politiquement.
Mais alors votre réaction là-dessus Nat, Nouch ou Titoun, comment vous vivez la chose de l'intérieur? Vous avez cette perception-là aussi d'une criminalisation de la gauche, de la recherche de l'ennemi intérieur?
Ouais, ouais. Carrément. Clairement, on se sent hyper en fait attaqué par cette affaire-là, par ce qu'on porte politiquement. Enfin, en tout cas, Moi, personnellement, je me sens très proche de ce qui est porté politiquement par les personnes qui sont inculpées. C'est des personnes qui sont allées sur les zones à défendre, qui sont allées s'opposer à des projets de destruction de forêts ou d'espaces précieux à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes, qui sont accusées pour ça notamment. Ça, c'est vraiment mis en avant dans le procès. C'est des personnes qui dénoncent les violences policières, qui dénoncent les violences d'État et qui sont accusées pour ça. Moi, je me sens hyper, enfin, je nous sens hyper attaqués, en fait, dans ce qu'on peut porter politiquement. Donc après, voilà, nous, notre réaction, c'est se dire, OK, bah là, ils essayent de nous terroriser, bah, clairement, en mettant en prison des camarades, des gens qui, en fait, qui assument des convictions politiques en critiquant les institutions étatiques. Elles sont mises en prison pour ça, en fait, et c'est assumé. Et tu parlais tout à l'heure des lectures de l'affaire Tarnac, et ben là, en fait, c'est aussi mis en avant sur, en fait, c'est quoi les lectures, c'est quoi les bouquins qui ont été retrouvés chez les inculpés, quoi. C'est hyper effrayant, quoi. Donc là, il y a ce truc, nous, notre réaction, c'est se dire, ah ouais, ah ouais, on n'a pas le droit de dire que la police, elle est violente et que c'est scandaleux et que, enfin, on n'a plus le droit de dire ça.
Parce qu'en fait, bon, alors, j'ai pas lu tous les chefs d'accusation, mais il y a quand même aussi des accusations de tests d'explosifs, de choses comme ça. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Je me fais l'avocat du capitalisme. Non, mais il y a des choses concrètes qui peuvent faire peur aux gens qui lisent les articles. Bah oui, des personnes qui fabriquent des explosifs, ça fait flipper. Pourquoi et comment est-ce que un des inculpés, peut-être celui dont on parle le plus, a été surveillé par la direction générale de la sécurité intérieure? Ça, comment vous l'expliquez-vous?
C'est pour ça que le choix des mots aussi, il est hyper important. Parler de terrorisme, ça fait peur et ça fait qu'on va aussi avoir moins de soutien. Et parler d'explosifs, ça fait aussi peur, alors qu'on pourrait aussi parler de pétards qui ont été fait exploser dans des champs à deux reprises, dont un pendant le confinement. Donc on peut aussi imaginer qu'on peut se faire chier, etc.
Parce qu'en fait, il y a un des inculpés qui était artificier chez Disneyland.
C'est ça,
quoi.
Ouais. Et qui cherchait à améliorer en fait ses techniques pour la reprise de son taf, à faire d'autres effets spéciaux. Voilà, le choix des mots, il est hyper important en fait aussi dans cette affaire. Et c'est comme ça, on voit, je crois, dans les procès-verbaux de la DGSI, on voit bien la manière dont ils vont traiter les chefs, enfin les motifs d'accusation. J'ai plus le terme exact, pardon. Mais comment ?
D'inculpation,
ouais, c'est ça. Par exemple, faire du airsoft, ça a été transformé en entraînement paramilitaire. Le choix des mots, il est hyper important là-dedans.
Le airsoft, c'est les pistolets à billes, là,
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Après, il y a beaucoup de choses là. Je voulais juste revenir sur du coup le contexte un peu en fait de répression et tout. Donc Charlie Hebdo, en fait, on est en état d'urgence qui devient permanent alors que les gens ne le souligne pas forcément, on n'est jamais sorti de cet état d'urgence depuis 2015. Donc, en fait, les juridictions qui peuvent être dites d'exception, etc., en fait, se généralisent. Il y a vraiment une grosse montée du niveau de répression. Les gilets jaunes, ça a été des inédits quand même effroyables sur les conséquences voilà, de vie de personnes qui s'impliquent dans un mouvement social, quoi. Et par exemple, l'association de malfaiteurs qui a été beaucoup utilisée et réutilisée dernièrement, il y a des personnes seules aussi qui ont été accusées, par exemple, de ce chef d'inculpation. Là, les gens ne se connaissent pas, ce n'est pas un groupe. Il y a plein de, enfin, il y a plein de preuves, voilà, que les gens ne se sont jamais rencontrés. Il y a une personne qui connaît tous les individus. Et là, on en vient aussi au pourquoi la DGSI, à un moment, s'empare commence à monter le dossier suite, en fait, à un retour d'une personne qui a été se joindre aux forces kurdes pour combattre Daesh sur place.
Pour soutenir des luttes autonomes aussi.
Au Rojava, c'est
ça ? Au Rojava.
Et donc, il part un peu moins d'un an là-bas. Et à son retour en France, la DGSI met son camion sur écoute, puisque de ce que j'ai compris, il vit en itinérance dans son camion. Et c'est de là que commence la construction de
l'ennemi intérieur. Alors pas tout de suite, parce que je rappelle les dates en fait un peu. Son séjour au Rojava, c'était en 2017-2018, il revient. Ça a duré exactement un peu moins d'un an. Mais à son retour, il est fiché S. Ça, c'est des choses qui sont en fait dans les fichiers de la police, mais qui n'apparaissent pas encore comme l'ouverture d'un dossier ou une instruction n'est pas encore ouverte, en fait. Hein. 2020, l'arrestation, en fait, l'instruction...
Parce que c'est automatique, en fait, ils surveillent dans toutes les personnes qui vont soutenir au Rojava.
Pas donc, les militaires.
Voilà, il y a une trentaine de personnes qui partent entre 2015 et 2019, là, à l'appel, en fait, du Rojava. Et, en fait, il y en a certaines qui y vont avec des motivations politiques, et parce qu'elles veulent soutenir le confédéralisme démocratique là-bas. Et ces personnes-là, quand elles reviennent, elles sont toutes fichées et sous surveillance.
C'est systématique.
C'est systématique, mais c'est pas fait pour les personnes qui sont militaires, qui vont. Voilà, c'est vraiment.
Ça concerne les militants, quoi. Mm. De gauche.
Voilà. Et donc c'est après ça, du coup, il y a.
Il n'y a pas de militants de droite qui vont au Rojava soutenir la cause kurde.
Il y a plein de motivations très différentes. Toutes les personnes qui reviennent d'un séjour au Rojava ne sont pas fichées S.
D'accord.
En fait, j'ai lu sur la... Moi, j'avoue méconnaître ou peu connaître l'affaire. Vous avez raison de dire qu'elle est invisibilisée dans le sens où, effectivement, j'ai plus entendu parler de punaise de lit dernièrement que du procès en cours. Et c'est grâce à cette invitation que je prends connaissance de tout ça. Mais sur justement, je me suis intéressée à la fiche Wikipédia de l'affaire en cours. Et sur la question du fichage postérieur à ces déplacements-là, quand il nomme justement la question des typologies de personnes qui sont allées soutenir le Rojava, ils évoquent effectivement des militants de gauche, mais aussi des catholiques. Ou des...
On peut être les deux. Hein.
Non, mais il me semble.
Non, mais c'est pour parler. Enfin, c'est comment je méconnais l'affaire et que vous parlez d'une systématisation d'écoute et d'affichage S. Je souligne que sur la fiche Wikipédia, c'est une source que. Enfin, c'est cette source-là que je cite. Effectivement, il y a différentes typologies de personnes.
Et il me semble que tous les retours du Moyen-Orient sont fichés, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Après, ils les classifient et ils décident s'ils font une surveillance ou pas. Okay. Là, pour le coup, les militants qui revenaient du Rojava ont systématiquement été... c'est-à-dire qu'on a fait une surveillance dessus. Les fiches, elles existent. Tu pars en Syrie, tu reviens, même si c'est pour aller visiter ta dulcinée, tu vas avoir une fiche, c'est sûr. La question, c'est certains... vont être suivis, c'est-à-dire qu'on va les mettre sous surveillance pendant des mois, des semaines, des années. Là, c'était le cas, longtemps avant le déclenchement de l'affaire. Et c'est sur la foi de ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là que est venu piocher a posteriori Darmanin, qui n'était pas ministre de l'Intérieur à l'époque, à un moment particulier, pour taper le 8 décembre 2020, sept personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas les mêmes niveaux de militantisme, certaines d'entre elles n'étaient pas militantes. Mmh. Et certaines étaient militantes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est ça qui est en train de s'effriter aujourd'hui depuis que le procès a démarré. C'est qu'au départ, il n'y avait que le narratif du ministère de l'Intérieur qui passait, donc c'était des terroristes d'extrême gauche. Et là, depuis que le procès a démarré et que la défense a commencé à parler depuis deux jours, et il y a de bons articles qui sortent, on se rend bien compte que les sept prévenus ont des profils très différents. Donc déjà, l'association de malfaiteurs, elle a explosé juste en écoutant chacun des participants. Maintenant, comment ils vont justifier...
Je te trouve un peu sévère avec Darmanin quand même.
Comment ils vont justifier le fait? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils avaient pour monter la mayonnaise? Ils avaient deux choses. Les explosifs. On explique qu'il y avait une des personnes qui était artificier et dont il l'explique à la barre en quoi son métier, ça peut paraître bizarre. C'est le terme qu'il a dit à la barre. Mais lui, il est passionné d'explosion. Comme toi, t'es passionné de musique. Tu vois,
bah, d'explosion aussi, j'ai explosé un paquet de mouchoirs hier.
Voilà. Donc quelqu'un dont c'est le métier, qui est passionné d'explosion, de créer la pyrotechnie, comme on dit, eh ben, il va tester des trucs et il le dit à la barre. Oui, c'est pas toujours dans les clous. Et l'autre, il vient du Rojava. Et à partir de ces deux trucs-là, alors on va chercher une camarade militante qui connaissait la ZAD et on va chercher. Et là,
Et c'est ça qui
s'est... Si, il y a d'autres trucs. Il y a des personnes qui ont des carabines de chasse. Il y a des armes qui étaient déclarées, mais ils mettent quoi dans le dossier ? Ils disent, ah, il y avait des armes, tu vois. Et en fait, ce truc-là, ils y ont monté, ils ont essayé de monter la mayonnaise, mais en fait, le dossier, il est creux. Et ça, on le voit dans plein d'articles de presse qu'on parle, qui disent, en fait, c'est terriblement vide, quoi. Donc, en fait, c'est quoi les discussions qu'il y a ? En vrai, là, pour avoir vu la première semaine, quand ils interrogent les inculpés, ils leur demandent, vous pensez quoi de la police ? Vous pensez, et fait dans les interrogatoires, on a compilé, il y a aussi un certain nombre de questions qui ont été compilées, de c'est quoi qu'on leur a été posé comme question, qu'est-ce que vous pensez de la politique de Macron, qu'est-ce que vous pensez de la politique d'Erdogan. Là, la juge, l'autre fois, dans la première semaine, elle a demandé, mais est-ce que vous croyez dans la justice française? C'est vraiment ça qui est posé comme question, c'est dingue, quoi.
Est-ce qu'on s'offre une petite virgule musicale?
Oui, on rappelle que c'est vous qui faites la prog de toute l'émission et on n'a pas parlé du tout premier morceau qu'on a écouté, si vous voulez. Non.
C'était, oui, c'était quoi?
C'était Mauvaise Langue.
Qui fait la violence? Je sais pas.
Je crois que c'est une recommandation en fait qu'on nous a faite et qui colle plutôt bien aussi à,
ouais, c'était parfait.
À cette soirée.
C'est qui, plus loin, fait la violence?
Parce que non, les questions sont posées à tous les inculpés. Est-ce que vous aimez la violence?
La rapportance, je voudrais qu'on respecte la sémantique et la non-polysémie devons... des termes utilisés ici. Merci.
Nous devons de répondre. Nous ne kiffons pas la violence. Non.
Bon, on enchaîne avec House Gang.
C'était pas un peu Carla Bruni? J'aime pas. On aime pas la violence ici.
Comme une ombre, plus leur ciel est bleu, et plus le sien est sombre. parle des rebelles, des licenciés. Sois docile, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle. C'est sur toi que les flics s'entraînent, les petits qu'ils contrôlent et toujours à qui ils s'en prennent. Et s'ils veulent, tu bouffras des pissenlits allongés sous des chrysanthèmes. Comme ça que les puissants t'aiment. Pour gommer ce que t'incarnes, on te braque sans armes. Tu tiens bien, t'es ton propre gendarme. Dans ta tête, c'est la prison ferme, c'est la mise en berne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle, de la mise en scène. Ils t'éclairent de leurs mille lanternes. Ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, marche-toi. T'es la personne que l'on déplore. D'une secte de vétards, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est à sens unique, ils votent pour une seule tunique. Déteste ton poupou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bistec, que ces bords dissèquent. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite.
Toujours sur Canal B, toujours dans Frisson. Ludo, que venons-nous d'écouter ?
Eh ben, on a eu deux morceaux de Osgang à l'instant, c'était Bonne Conduite, et on a commencé avec le titre Comme une ombre.
Et le suivant ?
Bonne Conduite.
Ah d'accord. Tiens, et celui d'après ?
Comme on entend jamais assez parler de Cazet et on l'entend jamais assez à la radio, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de passer deux morceaux,
ouais.
Deux morceaux d'Al et son groupe.
On l'entend régulièrement ici en tout cas. Donc toujours en présence de nos invités Natnouch et Titoun qui sont venus nous parler de leur soutien aux inculpés de l'affaire dite du 8 décembre. Alors pourquoi vous trois vous les soutenez? Et est-ce que vous faites partie d'un groupe ou d'une organisation quelconque pour mettre en place ce soutien? D'où vous vient cet engagement?
Du coup, nous, on s'est surtout constitué. Enfin, le soutien, il s'est constitué au sein de l'interorganisation anticarcérale. Du coup, qui est un mélange de plusieurs groupes, partis politiques, militants et militantes. Je peux les citer. Hein, il y a la FRAP, donc le Front Révolutionnaire Antipatriarcal, le CRAC, dont je fais partie. Du coup, le collectif Rennais Anticarcéral. Il y a le CSP. CSPSP35, donc le collectif de soutien aux personnes sans papiers d'Ille-et-Vilaine. Il y a le NPA, la CNT, Horizon Palestine, Justine Vérité pour Babacar, et des militants et militantes de divers horizons. Et du coup, en fait, on essaie d'être présent à certains moments. Là, en tout cas, comme il y a le procès en ce moment, c'était aussi important pour nous de pouvoir soutenir les inculpés dans leur lutte et dans tout ce qu'elles traversent, quoi. Et voilà, donc on a, comme on a pu le dire précédemment, il y a eu des concerts de soutien. L'idée, c'est que ça permet aussi d'une, de visibiliser l'affaire, parce que en tout cas cette interorga, l'idée c'est qu'elle puisse décloisonner, on va dire, la parole des personnes qui subissent l'institution carcérale, en fait. Et c'est vrai que par prison, en fait, on parle autant de prisons donc judiciaires, mais il y a les prisons administratives, les CRA, il y a aussi les hôpitaux psychiatriques et tout un tas d'autres choses dont on pourrait aussi parler, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et en fait, la création de cet interorga, elle s'est faite parce que le collectif Rennais anticarcéral essayait de mettre en place une journée nationale, enfin de répondre à l'appel plutôt de Najet Kouaki, qui a perdu, en fait son fils s'est fait assassiner au mitard à Lyon-Corbas. Et donc tous les derniers dimanches du mois de mai, elle organise avec son collectif une manifestation contre les violences pénitentiaires. Et du coup, nous, au sein du CRAC, donc le collectif Rennais anticarcéral, on n'avait pas assez de force, et cette interroga, elle a vraiment permis de nous soutenir et en fait elle a continué à vivre, et donc aujourd'hui on se retrouve à soutenir aussi les inculpés du 8 décembre, parce que ça fait sens aussi pour nous, en fait.
Et puis qu'on ait plusieurs personnes à s'engager dans ce soutien, parce que en fait il y a une personne qui est inculpée dans cette affaire qui est une camarade rennaise, que du coup dont je le disais tout à l'heure, en fait on se sent proche politiquement, qui est aussi une pote, une amie pour certaines d'entre nous, et que du coup en fait on se sent, c'est comme si on était visé directement par cette affaire, quoi.
Je sais pas si on peut dire son prénom, parce qu'il est cité dans les articles.
Oui, c'est Camille.
Voilà, parce que elle a pris la parole, si je me trompe pas, au concert, juste avant que les groupes démarrent. On en causait après avec Ludo, parce que nous, on était venus après avoir bu quelques bières, voir des groupes de punk hardcore, et puis ça, on a trouvé que la prise de parole, elle était super forte, et aussi, c'est tellement l'inverse de ce qu'on nous présente dans la plupart des médias, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui nous ressemble, qui a pas l'air d'être, on se fait une image.
Elle fait pas très peur, non. Notre copine, en fait, c'est clair.
Ouais, ouais. C'est-à-dire, on se fait une image du terrorisme ou de ceux qu'on accuse de terrorisme, de quelqu'un de super balèze avec un couteau entre les dents ou avec une violence verbale ou je sais pas quoi. Et là, on a quelqu'un qu'on pourrait croiser à la boulangerie ou à la pharmacie qui nous dit « j'ai été visé par des machins laser, la DGSI est venue me chercher, organe de police est venu me chercher chez moi, c'est l'horreur, je sais pas quoi faire ».
Mais c'est ça qui est ouf, en fait, c'est ce qu'il disait copain tout à l'heure, en fait, sur... elle, en fait, ce qu'elle défend politiquement, ce dans quoi elle s'engage, en fait, si elle défend les personnes qui sont inculpées, c'est de défendre le vivant, de défendre les différentes espèces là qui sont dégommées par le capitalisme, c'est de défendre des personnes qui sont dégommées aussi et qui n'ont pas de droit à côté de nous, en fait, dans les villes dans lesquelles on vit. En fait, c'est une personne qui s'engage dans de la solidarité. Enfin, voilà. Donc en fait, elle lutte contre la violence. Elle lutte contre la violence au quotidien. Et dans le procès, on leur demande quel est votre rapport à la violence ? Est-ce que vous aimez la violence ? Est-ce que vous cherchez la violence ? Mais what ? C'est exactement l'inverse, en fait, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable, quoi.
Et Tout à l'heure, la question qui était posée, c'est comment on s'engage dans cette solidarité-là à un moment où tout définit des terroristes avec l'idée de l'image du couteau entre les dents. Mais ce qui est intéressant, c'est la lutte exemplaire qui a été menée. Donc il y a 7 personnes qui ne se connaissent pas. Pour certaines d'entre elles, très rapidement, il y a des comités de soutien. Ces comités de soutien ont essayé de travailler ensemble, alors que tout le monde n'était pas militant, militante, etc. Il y a des comités de soutien qui soutenaient des gens qui ne se considéraient pas militants dans l'histoire. Et il y a eu une espèce de lien qui s'est fait tout au long de ces années. Et il faut dire que la plupart des 7 ont fait de la préventive et y ont laissé des plumes en préventive. Juste pour dire quoi, tout à l'heure, c'était l'objectif de départ. Il fallait terroriser, c'est ce que tu disais, les militants. On sortait de la victoire de la ZAD, c'est un camouflet pour l'État. Un État qui est toujours... ceux qui tiennent le pouvoir, c'est le pouvoir ultralibéral qui n'a encore qu'une idée, c'est de continuer à faire du flouze en détruisant la planète, en détruisant les corps, en faisant travailler des gens, etc. Il faut un narratif.
Il faut un plan là.
Il faut que les gens rentrent chez eux, quoi, bordel. Et donc, il fallait les terroriser. Et là, ce que tu as vu, c'est de ce que tu as ressenti en écoutant Camille, eh ben, les personnes qui ont vécu cette affaire-là au moment où elle est arrivée, il y a une force de sidération énorme qui est arrivée ce 8 décembre-là chez plein de gens. Et ça autorise... Après, ce qu'on a vu à Sainte-Soline, par exemple, il faut vraiment regarder la dynamique.
Ouais, Nouche.
Ouais, je voulais un peu aller sur cette thématique de... En fait, c'est des personnes qui sont sensibles. En fait, il y a quelque chose qui se passe là dans le procès, moi, qui me choque énormément. C'est que les personnes, en fait, elles ont commencé en arrivant à la barre par poser leur sensibilité en disant bah ouais, en fait on est en colère, en fait on est triste, en fait on a été dégommé par cette répression, tout ça. Et en fait on se rend compte dans le procès que que leurs émotions, que ce qu'elles ont pu vivre dans leur vie, notamment en termes de répression d'État et de violence policière, ça s'est retourné contre elles et eux. En fait, il y a quelque chose, moi, qui me choque énormément, c'est l'instrumentalisation du trauma, enfin du traumatisme, ou du choc que ça peut être de subir des violences policières ou d'en voir, pour dire, ah ben donc, est-ce que cet événement dans votre vie aurait nourri une certaine amertume envers la police ?
Ouais, ouais.
Comment ça ? Je suis pas censée avoir d'amertume envers la police. En fait, c'est ça, en fait, qui est incroyable. C'est que du coup, on vient questionner, ouais, ouais. Mais est-ce que vous avez été traumatisée ? Est-ce que vous avez subi vous-même ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Les personnes, elles viennent creuser seulement. Et en fait, les inculpés sont censés dire quoi face à ça ? Ben non, ça m'a rien fait.
Mais ça, c'est un sujet qui est quand même partagé. On avait beaucoup parlé dans Frisson de la contestation de la loi travail, la loi M. Khomri sous la présidence de Hollande, qui avait été un truc traumatisant pour pas mal d'entre nous à bien des égards, parce qu'en fait il suffisait de se promener dans la rue pour potentiellement recevoir un flashball ou être témoin de violences policières. Et on s'était dit, et ça, beaucoup de médias en ont parlé depuis, que finalement, cette répression, en fait, crée des vocations militantes de personnes qui ne l'étaient pas auparavant, mais qui, face à la répression de l'État, se disaient, bon, il faudrait peut-être que je m'engage, alors soit dans un parti politique, soit dans une association ou autre. Et depuis, il y a eu Macron, il y a eu Darmanin, donc on a évoqué Sainte-Soline, il y a eu bien sûr la séquence réforme des retraites, avec, on a vraiment observé quand même une criminalisation de la gauche, puisque maintenant la NUPES est qualifiée d'extrême gauche, enfin une espèce de déplacement avec une bagarre sémantique. Et ça, j'ai l'impression que vous en êtes aussi au cœur de cette bagarre sémantique, parce que en gros c'est présenté par les médias, on va dire mainstream, comme le procès de terrorisme de l'ultra gauche, hein. On dit plus extrême gauche, on dit ultra gauche, parce que parce que il faut bien pointer du doigt les militants. Donc c'est et vous finalement vous adoptez la posture comment dire miroir qui consiste à dire mais non c'est l'État qui nous terrorise, c'est pas. Est-ce que cette analyse elle vous vous y retrouvez ou?
Ben en fait c'est aussi l'État qui va créer de toutes pièces ces trucs là moi je trouve, enfin, comment dire, je fais aussi beaucoup de parallèles avec les personnes qui sont incarcérées. On part du principe que l'État on fonctionne on va dire dans un système qui est raciste, qui est classiste, qui est misogyne, sexiste, etc. et en fait l'État il va être beaucoup plus dur avec cette personne là et enfin je sais pas très clair, pardon, je suis un peu en train de paniquer dans
ma phrase. Non, mais clairement, en fait, c'est quelque chose qui est aussi au cœur dans les propos de ces personnes. En fait, elles critiquent les institutions étatiques, elles critiquent notamment, et ça c'est quelque chose qui a été nommé dans le procès, parce qu'en fait, justement, Camille, elle a écrit une lettre qui critique cette procédure judiciaire, et elle cite une personne qui parle des biais sexistes, classistes et racistes de la justice, qui est une réalité, qu'en fait, elle essayait de le défendre, elle dit, mais c'est pas moi qui invente en fait ça, cette réalité-là. Et en fait, c'est aussi ça qu'elles doivent défendre, c'est le droit d'aller critiquer les institutions étatiques, en fait, si elles sont accusées pour ça.
Moi, je voudrais simplement citer un passage d'une tribune du collectif des combattants et combattantes francophones du Rojava en soutien à leurs camarades que vous avez apporté à notre connaissance. Qui dit « Pour comprendre cette affaire, il faut remonter au début de l'engagement du volontaire international en Syrie. Entre 2015 et 2019, une trentaine de Français ont répondu à l'appel des populations du Rojava pour protéger la paix en participant à la guerre de légitime défense contre Daesh et l'armée kurde. » Je ferai ici une parenthèse pour dire que je crois que Daesh est l'ennemi commun de la nation française. Je la ferme ici. La DGSI a immédiatement établi un tri entre les mauvais volontaires se réclamant d'une idéologie révolutionnaire et les bons volontaires, anciens militaires ou apolitiques, qui pour certains ne furent même pas auditionnés à leur retour en France. Ceux qui étaient identifiés comme de potentiels membres de l'ultra-gauche se retrouvèrent systématiquement fichés S et firent l'objet d'une surveillance active, tout en étant coupables de rien d'autre qu'un délit d'opinion. Et je crois bien que c'est ça dont on parle, et je crois que c'est ça dont il est peut-être important de soulever au-delà de nos contingences et de nos affinités politiques. C'est que, me semble-t-il, tout est dit en fait à l'endroit de la question du délit d'opinion. C'est, il me semble qu'on est dans une république démocratique où la liberté d'expression est un droit fondamental, et qu'effectivement se faire... accusé, réprimandé ou malmené pour les opinions qu'on défend et potentiellement, arrêtez-moi si je me trompe, anticonstitutionnel.
Waouh. Non mais un des faits marquants, peut-être vous pouvez réagir là-dessus, c'est que la DGSI, dans le dossier qu'elle a monté, implique les avocats. Les avocats, donc il y a eu 8 avocats, je crois. 14, pardon. Parce que certains font partie de ce qu'on appelle les legal teams, donc l'assistance juridique à des manifestants ou autres. Donc ils ont été repérés comme tels. Et donc on discrédite même le droit des accusés à avoir recours à un avocat, ce qui est a priori une règle de base du procès. Est-ce que vous avez suivi ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire d'avocat et de legal team, c'est qu'ils utilisent le fait qu'ils avaient des coupons de legal team où sur certains, ils avaient le numéro de certains avocats connus pour être des militants de legal team. Alors, il faut expliquer peut-être aux auditeurs ce qu'est une legal team. Une legal team, c'est des avocats qui sont volontaires pour défendre lors de mouvements sociaux les personnes qui seraient prises par la police pour les actes qu'ils auraient commis pendant une grève, une manifestation, un blocage, etc. Donc voilà. Donc c'est logique que certains militants et les les numéros de Legal Team à chaque manifestation, c'est très largement répandu. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que en effet, tu dis qu'il y a une règle de base de principe en justice en France, c'est que on n'a pas à critiquer le choix des avocats. À partir du moment où l'avocat est au barreau, ça peut, c'est critiquable sur le terrain médiatique, mais jamais, au grand jamais, ça n'est critiqué. Moi, je pense à Vergès. Si vous vous rappelez de...
Ou Dupond-Moretti aussi.
Non, mais je pense à Vergès parce que Vergès, il a défendu des terroristes. Oui, oui, Dupond-Moretti n'a pas défendu de terroristes. Et Vergès, lui, il a défendu des terroristes. Et il avait... Si vous, moi, je suis de la génération où j'ai grandi dans les années 80. C'était tout l'honneur de la France de permettre, et elle s'enorgueillait de permettre que des grands avocats puissent être défendus, même pour défendre les pires des ordures. Et là, on est dans une situation hallucinante où c'est assez inédit, c'est utiliser à la barre le fait, en gros à charge, si vous utilisez des avocats militants de Legal Team, alors c'est une preuve que vous êtes anti-État, nanani nanana. Mais ça, c'est un narratif qui est rendu possible aujourd'hui, quoi. C'était, il y a quelques années, c'était inimaginable. Et moi, je m'interroge vraiment, hein. Comment c'est possible ? Je veux dire que les gens ne s'en inquiètent pas de comment c'est possible. Et je reviens juste sur ce que tu disais, après j'arrête. C'est quand tu faisais l'État produit des militants. Alors, elle produit pas... Elle, au bout du bout, elle peut produire des militants, mais d'abord, elle produit des gens qui se débattent avec la violence qu'ils subissent de la part les violences d'État. Et cela, le fait même de se débattre parce que t'es violenté, moi j'ai, on a tous les images de quelqu'un comme George Floyd qui se fait étouffer, et on peut imaginer que dans sa position, il se débatte. Il n'a que ce choix-là de pouvoir se débattre. D'accord.
C'est la question de la légitime défense.
Et je reviens quand même, parce que tu as cité les mouvements sociaux, mais pour moi, ce qui s'est passé cet été dans les quartiers populaires, tu les as pas cités, et qui subissent aujourd'hui une répression historique. Là, dont ça fait quelques articles de journaux, mais ça crève pas l'écran. Là, on re-remplit les prisons. On va passer à un stade hallucinant. Et là, on est dans une situation de rage. Là, c'est pas des militants. Là, on parle de jeunes qui se soulèvent de manière spontanée partout parce que c'est insupportable pour eux. Et ben ça n'est pas reconnu. Ça n'est pas discuté. Ça n'est pas débattu. Sauf dans certains milieux de militants, politiques. Mais jamais on montre. Mais à un moment donné, les réactions à ça. Et je reviens à ce que disait Titoun aussi. C'est que des gens qui se débattent dans un silence total, c'est dans les prisons et dans les CRA. On n'entend pas parler des gens qui incendient les CRA, alors qu'il y en a quasiment tous les mois aujourd'hui. Alors que c'est insupportable ce que vivent les centres de rétention administrative où on met les personnes en attente de leur reconduite à la frontière. Mmh. Voilà. Ou de la procédure de reconduite à la frontière. Juste, je voulais dire ça et je laisse.
Nouche, tu voulais réagir.
Ouais, je voulais réagir à ce que, par rapport au fait que ce soit l'État qui terrorise là dans cette situation, quoi, et un peu parler de cette répression, bah, notamment qu'elles ont subie, et en fait, c'est quoi ce cercle vicieux de la tôle des violences d'État. Là, il y a une Flo dont on parlait, qui est partie au Rojava, qui a fait 16 mois d'isolement, en fait, qui a été emprisonnée en préventive et qui a été. Seul, en fait, isolé là-dedans.
Ouais, avec une grève de la faim, etc.
Et dont il est sorti avec 37 jours de grève de la faim, grâce à 37 jours de grève de la faim, quoi. Et donc, il a pas mal écrit là-dessus. Je voulais juste vous lire un petit extrait que je trouve intéressant sur ce cercle vicieux-là. « L'on dit que le propre de l'humain est le rire. Mais seul, sans contact humain, le rire est impossible. L'isolement nous retire le droit à notre humanité. Pour garantir son humanité, devrait-on rire seul ? Serait-ce s'adapter à cette situation ? Mais rire seul, pour certaines personnes, cela s'apparente à la folie, et la folie, pour d'autres, mérite l'enfermement. Devrait-on enfermer des gens pour les conséquences de leur enfermement ? Je sais que ce n'est pas une idée nouvelle, mais les gens décident de l'enfermement, de l'isolement ou des situations de détention des personnes, qu'elles soient condamnées ou présumées innocentes, devraient savoir à quoi ça correspond concrètement. » Voilà, c'est juste un petit extrait
juste
de ces lettres.
Là, maintenant que tu as lu les mots de Libreflot, ce qu'ils ont vécu, c'est que c'est des choses qu'on a connues, surtout aux États-Unis, qui ont été critiquées après le, surtout sous la période 2008, après 2008. C'est ce qu'on appelle la torture blanche. Mmh. C'est-à-dire, on ne commet pas d'exaction physique directement, mais on met la personne dans des conditions intenables, dans des conditions insupportables, de manière longue. Et ça, c'est utilisé en France, la torture blanche, et on n'en parle jamais.
Et on le voit en fait dans le procès, à quel point les inculpés ont été traumatisés de ces interrogatoires, des violences policières et tout ça. On le voit en fait, il y a des moments, il y a des personnes qui, à la barre, fondent en larmes juste de souvenirs en fait, des interrogatoires qu'ils ont reçus. Et on sait que c'est les méthodes de torture, qu'elles sont fréquentes, qu'elles sont récurrentes, qu'elles sont habituelles, mais que oui, ça traumatise, en fait. Et que comment tu fais pour te défendre, en fait, à un moment où, en fait, t'es traumatisé, en fait. Psychiquement, c'est du harcèlement. Puis, en fait, là, on parle des interrogatoires, donc il y a la prison. Après, il y a la sortie, il y a les contrôles judiciaires, il y a tous les proches qui sont surveillés.
Les assignations à résidence.
C'est ça, de devoir aller pointer. Alors donc après le ministre de l'Intérieur de s'enorgueillir de « Oh bah au moins maintenant ces personnes elles ont trouvé du travail ». C'est l'avantage de cette affaire, donc il s'agit de les insérer professionnellement.
C'est ça, c'est penser la réinsertion que par le travail en plus.
C'est ça. Et puis en fait la surveillance elle continue dans l'intimité. En fait les personnes elles sont suivies par des flics en fait jusqu'au procès en fait. C'est des choses qu'elles vivent et les proches aussi tu vois.
Et les proches aussi. Et ce qui fait une double pression, parce que les personnes inculpées savent que les pressions sur les proches sont très fortes aussi. Et ça, la culpabilité aussi est très forte vis-à-vis de ce que elles voient vivre dans leurs parents, leurs plus proches.
Et au niveau musique, je pense que vous vouliez qu'on passe les Lacs du Connemara, là, maintenant. Non ? Vous ne nous avez pas ramené Sardou ?
Ah non.
On va le laisser William.
Je pense qu'une petite virgule.
Oui, parce que là, j'ai envie de dire, c'est un peu l'autoroute du fun cette émission.
voilà. On peut se faire 13 minutes.
Je voudrais pas qu'on soit pris pour un délit de bamboche. c'est ce que je veux dire.
Puisque l'enjeu face à cette affaire, c'est de ne pas se taire, de ne pas taire nos critiques des violences policières, des violences d'État, des violences systémiques non plus. Et oui, on veut s'en prendre à l'oppression et au capital. Et oui, on veut pouvoir continuer à critiquer les institutions étatiques, alors on pourrait avoir 13 minutes 12 contre les violences policières.
Amen.
S'il te plaît.
Malikou Sekine, Macomé, Amin ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu ? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger ? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute. La police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « Mais que fait la police ?» Nous répondons
« 18 morts par an, qui osent encore parler de bavure et mentir aux parents. Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13-12 chez nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe-droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition est par nature cruelle. La police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle.
Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude. Lassitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence si t'as pas de fortune. Ah, cap dans la tribune, nique la baque au coin de ma rue. Flashball sous nos figures, manif et point de suture. Massifs sont les bavures, injustice en couverture. Steve, s'il y a des boulades, sont pas des procédures. Rémi, c'est vrai qu'il y a ta main, la police tue.
La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à travers tablettes et smartphones. Pourtant ça fait un bail, ah ouais mon vieux. Depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des noms. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits qui foutent le feu dans mes artères avant d'exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les victimes.
Devant une personne âgée ou un gamin de la tête, regarde, il propage la guerre en tant que gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il y a attaque des garibous parmi tous ces types. Mais le bon flic a frappé Geneviève, a-t-il poussé Steve? Nick Nantes, Paris sous les tirs, ils ont fait nous des qui. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malekou, c'est qui?
Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité des campagnes au quartier confiné cité. Des terres, alors prends la rue, écris bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors.
Yeah, j'dis c'est que nos proies, bras. Tu quittes et on croit que ça veut briser nos blocs. Remixer le 17 octobre, viser le pogrom, leur ostracisme est colossal. Police, militant, antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qui en est des gentils. L'État les fera tirer pour protéger les nantis. Puis les fera quitter, t'espères transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique.
Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leur violence deviendront des projectiles qu'on lance fort sur leur uniforme, unique forme de réponse. Tant que la justice les soutiendra et on se souviendra du bruit du port lorsque le schtroumpf viendra. On trouve plein de rats en bleu qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les verts. Je veux pas que mes petits poussent là où les Schmitts prennent pour des GI. Une pensée aux victimes coûte 13-12 NODJA.
Cours, cours, ils ont dégainé les LBD. A chaque manif, j'ai la boule au ventre et un air effrayé. Force aux mutilés, combien qu'on accable pour s'être mutiné auprès du capitaine Akab. À tous les anonymes, tous ceux qu'on connaît pas, y'a pas de place au débat. Alors ne vous étonnez pas si les cocktails et les pavés nous servent de sentence. Car quand la justice n'est plus, il ne reste que la vengeance.
On parle plus de faits isolés, mais bien d'histoire de France. J'en ai noirci des pages depuis ma première marche blanche il y a déjà 20 ans à Lille. Un triste mois d'avril, d'une balle dans la nuque, un brigadier tuerie, Adam Laoui, encore un jeune buté gratis. Un flic muté à Nice, une justice complaisante, toute une ville brûlée à vif. Tu réalises qu'en vérité, l'histoire ne fait que bégayer. Qu'il faut encore batailler pour voir leur machine s'enrayer.
C'est l'heure de combattre les élites, leurs séides et ceux que nous nommons j'tard. Aucune bavure, c'est que des crimes dont ces raclures sont responsables. Démocrature, violence systémique, j'ai les Schmitt comme des bourreaux de longue date. Au mic, je suis abrupt, intrépide. Et le foie de mes ennemis, c'est le fourreau de mon sable.
Alors, des corrimes, on les s'embrase, peu respire. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une police sans armes. Et le mot que j'ai griffonné dans le sable, tu t'indignes, sans cesse contrôlé par un flic qui connaît ton blast. Pas de ceux qui rigolent des temps graves. Les sœurs et les frères en ont marre. L'État se radicalise, donc obligé de mener la guerre à notre sort. Bien sûr que je rêve d'autre part, mais pour l'heure, je reste à la ville. Trop d'amis s'y sont marqués par la vie. Les aider, le rôle que je donne à mon art.
Ils ne protègent pas le peuple, mais l'économie. Gère les décis comme dans les colonies. Formés au racisme, à la xénophobie. Tu cherches des bons keufs, mate la rubrique nécrologie. Et rien à foutre si mes écrits choquent. 1. Ils nous aiment pas, mais c'est réciproque. On n'a pas attendu Snapchat et Periscope pour savoir qui est à l'origine de toutes les discordes.
Tu reconnaîtras le bruit des balles mortelles, le bas des bottes. La chasse à l'homme dans les barrios, les petits ramassés par les porcs. Les sauvageries de la BAC, les poucaves, les vici. Les jeunes qu'ils tuent et prennent la femme pour faire le ménage sous leur tapis. Tu t'entendras tous les mensonges dans les musiques, les conneries dans le JD. Le confort des nantis, les charters affrétés. L'histoire dira que c'est pour la paix, le fond la France des colonies. Au front, ça tape la garde à vue, la zonze et ça, tu le gardes à vie.
Tout si je suis à Matoukoumé, je suis là pour dénoncer les meurtres que la police commet, les crimes que la justice omet. Que veux-tu faire quand le racisme a un uniforme bleu qu'il souffle sur les braises pendant que les miens ne cessent de crier au feu? Pour un délit de sale gueule, tu pourrais te faire fumer. Garde le sang-froid quand un poulet cherche à te déplumer. Et pour nos morts, on ne cessera de pousser des cris d'indignation face au silence de ce pouvoir qui ne fait que raviver les tensions.
Ce serait trop facile de crier, mais tout le monde aime la facilité. Major en l'air, balance des phoques, quitte à s'en mordre les doigts. Pas de solution, pas de justice, reste la fatalité. Dans un combat où même l'estropié ne baissera pas les bras. La violence par la violence, la responsabilité reste en amont, sabre de guerre et la paix reste à l'écart. Et si le savoir est une arme, ils sont pas tous calibrés. Ou quand les forces de l'ordre deviennent la faiblesse de l'État.
Et à force sont les esquiveurs, mais peut-être bien que c'est ce qu'ils veulent. Sont plus que des bêtes videurs dans cet univers qui meurt. Tous ces êtres si moches, tous à protéger leur maître qui sonne. Le glaive fièrement dans des conquêtes ignobles. Ils aiment la violence, ils sont devenus bâches. Toujours une explication parle de son bon usage. Tu finis ensemble même si t'es venu sage. Ces enculés voient les manifs comme un bonus d'âge.
On tire l'école, les cierges, la garde mobile. D'autres les appels, les poulagas, les keufs, les roussins ou civils. On prend les armes, le monopole de la violence légitime. On prend les larmes de ceux qui restent, hommage aux proches et familles de victimes. On les déteste sans distinction aucune. La police viole, assassine et mutile. La justice est complice car elle acquitte en prime. N'attendez pas qu'on se taise car les dossiers s'empilent. Et que les futurs bâtards s'empressent. Pareil que ça recrute dans cette école du crime.
La police tue.
C'est pas le sujet que les infos diffusent, c'est la folie pure. Cherche une autre issue, mesure d'étranglement. Les noirs ou arabes en France, ils vivent dangereusement. Contrôle de routine, personne pour secourir. Comment dire à un proche qu'on a peur pour lui? Bande de keufs pourris, bande de meurtriers. J'éviterai les insultes, pourtant le cœur y est.
Parce qu'il s'avère servir les villes, c'est faux qu'ils me servent. Ils rendent service à l'élite et sévissant le peuple. Parce qu'ils peuvent tuer impunément, sont si fiers d'eux. On devrait presque les remercier de se faire palper les yeux. Du plus haut grade jusqu'au trou de balle en quadrouille. Tellement vite de vie, même les darons en ont la trouille. Ne manque jamais l'occasion, leur appeler à chaque quart d'heure. Tous les flics ne sont que des traîtres, puis j'en bave de rage.
J'suis grillé comme la Gaule dans un survêt loto. Ou pire que ça, comme De Gaulle dans mon pays, le Congo. Ils jouent les Robocop, j'y ai goûté très tôt. Taser flash buzz pour National, course poursuite dans le ghetto. Ça me rappelle l'époque de Georgia, oh my man. J'écris allô Marianne, ce lynchage, y'en a marre. Vos étoiles sont profanes, ils le tient pas que gendarme. La seule police qu'on aime, c'est celle de Sting Rockstar.
De psychopathes sur des gilets pare-balles. Des brutes épaisses pour protéger le capital. J'ai vu la peur comme outil politique fondamental. On assassine aussi bien avec des armes non létales. Avec un lanceur de balles, on ne fait pas dans la dentelle. Et les bavures ne sont jamais vraiment accidentelles. Au ministère comme à l'antenne, mensonge en permanence. Dans ses regards, ses silences, la police et la violence.
L'ami, je crois que c'est dans l'air, la violence. Faut que t'encaisses quand dans les magnifiques quartiers, la police se ramène et rapidement crée l'enfer. Les victimes, on les enterre. Mais qui ose nier le racisme alors pour eux, un meurtre est un traitement exemplaire. Shoot les drones que l'on voit se pavaner dans le ciel. Tellement d'étoiles dans les yeux quand on voit que des gens se lèvent. Dis-toi que les concessions, on n'est pas prêt d'en faire. Faut changer la police et pas dans le traitement.
J'attends que des termes, le prochain que son mental complexe. Qui verra les images et me dira qu'il a dans le contexte. Pitié, donnez pas d'armes à des mecs bourrés. Si tu vois un noir courir, c'est que c'est la mer courée. Parce que si tu n'as pas la gueule à Macaulay Culkin, ton meurtre par un peu zélé sera pas reconnu comme crime. Payer des impôts pour se faire shooter, je suis confus. Imagine, j'ai l'impression de payer l'état pour qu'on me fume.
Qui parle encore de bavure, d'accident ou de maladresse, ils font juste leur boulot. La note s'aggrave et j'en vois trop peu qui passent à la caisse. J'allume un deux feuilles à chaque 13 décembre. La rime perce défense, ça sera peut-être moi le prochain à me faire descendre. Et fais pas le commis master, rappelons les maudits parias. Bleu marine et rouge chant dans tous les commissariats. Est-ce que tu sais comment ces backpunks procèdent? Les meurtriers sont décorés comme des sapins de Noël.
J'ai pas vu la justice sous leur sapin de Noël. Mais la haine qu'on suscite quand on atteint nos rêves. Desserre les molaires, faut qu'ils prennent des molars. Pour plumer la volaille, je ferai du bénévolat. Et c'est plus grave, je connais le prix d'une larme. Combien au prix du grade et combien au tribunal? Non, je simule pas, ma haine est immuable. Mon âme est bien plus clean, même si j'ai la figure sale.
Faciès outrageant, versus monsieur l'agent. Racé sera la proie, elle bronzée a toujours bon foie. Sous leur poids, tu meurs lentement. T'es plié étranglement, chasse à court, tu seras cobaye. Par choqué par la flicaille, il avait 20 printemps. Voulait voir la mer, dit tu es grand pour le faire taire. La prison l'enterre, pas de justice, mais toujours suspect. Victime sera le criminel, on reconnaît bien la griffe du colon sous bleu rimel.
Leur méthode est coloniale, le contrôle est racial. Maté l'indigène, le sauvage, l'animal. Chaque jour il te rappelle qu'ici c'est pas ton bled. Que ta couleur est trop laide, que ta présence les obsède. Et tu risques la hogra à chaque fois que tu leur tiens tête. Tu risques un tribunal à chaque fois que t'écris un texte. Tellement ils nous oppressent, tellement je me répète. Tellement ils nous agressent, tellement je les déteste.
Et on a répété, 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 répété. Ça use 13-12 minutes de plus pour vous traiter. Ça fait pas de mal, vu que nous on a pas de pare-balles. Ni les moyens de la juge pour enquêter.
Pour enquêter.
Ouais. Qui vous raquettez? Des noirs et des arabes et quelques plans bien endettés.
Bien endettés.
Mandat de dépôt, j'ai les suppôts de Le Pen. Générateur de peine et d'anxiété.
J'entends des All Life Matter, putain t'y es pas. Bien sûr toutes les vies comptent en fait, c'est même pas un débat. C'est pas dans quel état ça me laisse. Les choses ne peuvent pas changer si tu restes dans ton color blindness. Pourquoi tu fixes mon doigt quand je pointe la lune? Tu capteras peut-être plus vite avec un genou sur la nuque. T'entends racisme à toutes les sauces et ça dégouline dans ton vide. T'es fatigué d'en entendre parler, imagine ceux qui le vivent.
Tu sors de chez toi, les keufs te contrôlent à tort et à travers. Tout ça pourquoi? Pour un simple regard de travers de bord. Tu te retrouves au poste, là tu dis que c'est pas qu'un cliché. Tout ce que les rappeurs racontent sur les flics. Police, racisme et politique, vaste communicant. La prochaine pavure, tu crois que ça va se terminer comment? Come on, big, j'suis pas né du dernier des camps. Pour moi, le préfet allemand, c'est juste le premier des cons.
Les directives viennent d'en haut d'une autre caste. Tombent en cascade sur les képis et les casques. Forcés à encastrer les leurs sans trop de questions. Les dirigeants cassent. La pression précède à l'oppression. La sanction dans les deux camps, c'est ça l'idée. Changer les termes, changer les mentalités. Le peuple doute de sa sécurité alors qu'il la paie. Les forces de l'ordre ont remplacé les gardiens de la paix.
Peut-on pardonner à un flic, peut-on pardonner le racisme, les violences gratuites, les coups qu'on nous a donnés. Devrions-nous ne pas pleurer les victimes? Accepter le cynisme, fermer les yeux comme ceux qui nous dirigent. La police assassine, étrangle et prend pour cible les mêmes minorités que visent les discours politiques. Y'a pas d'hasard qui tienne ces volontaires et codifiés. La violence légitime n'existe que pour dominer.
Hé hey Darmanin, check bien ton reflet dans les flaques de pisse de ta vie de chien. Plus ce monde t'a échoué par le trou de balle. T'es qu'un frotteur de bus, un pointeur de plus. On te fera glisser le ton facus sec dans les amygdales. Le feu dans les bleus, les yeux dans les yeux. S'il pleut des trottinettes, c'est parce que la rue rejette le non-lieu, la banlieue au milieu. Logo zone commando, rate des villes et radicaux. El pueblo unido déboulonne le comico. Comico, comico.
Toujours Canal B, toujours Frisson, en présence de Nouch, Titoun et Nat. Enfin bon, Titoun est en train de fumer une clope, hein, pour être précis.
Il n'est pas bien loin.
Voilà, il n'est pas bien loin. Pour évoquer l'affaire du 8 décembre, donc nos invités soutiennent les inculpés. On a, je pense, déjà largement débriefé un peu le contexte de l'affaire. Et je crois pas que ce soit difficile de comprendre ce qu'on en pense, ni de déceler la connivence des animateurs RIS de cette émission avec leurs invités sur le plan idéologique, ce qui n'est pas du tout cool en termes de journalisme et, et d'éthique. Mais au moins on se positionne, on reconnaît nos affinités. Nat, Nouch, vous vouliez aborder deux points qu'on n'a pas abordés, donc puisqu'on en est là du journalisme, de l'objectivité, allez-y, balancez vos sujets, on ne pose même pas de questions.
Alors, pour revenir un peu aux dernières actualités et comment ça se déroule là dans le tribunal, ce procès particulièrement... qui prend des proportions énormes et qui est un vrai théâtre, voilà, on se retrouve dans quelque chose d'ubuesque et on évoquait plein de choses tout à l'heure, mais ça a été des déclarations de la présidente, voilà, que de réaffirmer que personne n'était là pour juger les opinions de nos camarades, malgré que tout laisse penser le contraire. Et il y a quand même des choses effarantes là qui sont soulignées en fait avec les avocates présentes autour des personnes inculpées, hein. Ils sont bien défendus, il y a du monde et il y a plein de recours là qui sont faits encore dernièrement depuis l'ouverture du procès, qui sont systématiquement refusés en fait par la présidence, par la juridiction. Et notamment quoi, quelque chose qui pareil sort de la légitimité de défendre ses droits et d'appeler à témoigner en fait les agents de la DGSI qui sont trois matricules invisibilisés et sous l'impunité de leurs fonctions. Ils sont invités à comparaître par différents biais avec un huissier qui se pointe à la DGSI mais à qui on n'ouvre jamais la porte, un refus catégorique qui a été fait et une possibilité pour la juge d'utiliser des recours et d'aller les chercher puisqu'ils sont à l'origine en fait la majorité des PV qui sont incriminants et qui sont basés sur des sonorisations.
Donc, c'est 200 PV. 200 PV qu'ils ont fait en fait dans le dossier quoi. C'est énorme quoi.
C'est énorme et c'est c'est-à-dire tout que les est basé charges, là-dessus.
Tu me dis si je reformule mal, mais les charges reposent sur des retranscriptions d'écoute faites par des agents de la DGSI. et ces agents de la DGSI ne veulent pas témoigner au procès.
Et ne sont pas soumis à le faire malgré qu'il existe des dispositions pour les faire venir.
Il y a plein de manières de faire témoigner un agent tout en couvrant son identité, parce que c'est ça l'enjeu de départ dont la plupart des auditeurs qui écoutent se disent c'est évident qu'il faut qu'ils gardent leur anonymat du public.
Mais un Mathieu juge... Kassovitz, c'est Mathieu Kassovitz, non ? Le bureau des légendes.
Mais le juge a plein de possibilités pour. Et là, pourquoi c'est décisif cette histoire-là ? C'est parce que quand on regarde les PV, les écoutes, et là, surtout depuis ces deux derniers jours, si vous lisez la presse, il va falloir les confronter à ce qu'ils ont produit. Parce que là, on se rend bien compte que c'est incohérent. Et c'est le dernier truc qui manque pour faire complètement chuter. C'est un des derniers trucs qui permettrait de faire chuter tout le dossier. Ouais, c'est un peu l'enjeu.
Alors, il y a un article de Mediapart qui est paru hier, qui est intéressant, parce que les retranscriptions, donc c'est donc des écrits qui sont fournis au tribunal.
Mmh. Avec une sélection arbitraire, en tout cas, sur laquelle on n'a aucun regard.
Ouais. Et alors, pour citer cet article de Mediapart, donc il y a 11 000 séquences audio qui ont été enregistrées et 86 qui ont été retranscrites et versées au dossier. Donc en termes de pourcentage, c'est moins de 1%. Et il y a quand même des choses qui ont été réécoutées lors du procès. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que il y a par exemple la retranscription écrite par la DGSI. Il y a des choses comme on doit faire attention sur YouTube, mais finalement pendant le procès à la réécoute, c'est on ira faire un tour sur YouTube, c'est quand même plus la même chose. Où il y a c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre des objectifs, et finalement à la réécoute durant le procès, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre des bonnes habitudes. C'est plus la même histoire. Et le plus drôle, enfin bon, pardon, mais c'est quand même drôle. La DGSI évoque dans ses retranscriptions un tir en rafale d'une arme, ouvrez les guillemets, avec changement de rythme, lent, puis au coup par coup. Et finalement, à la réécoute pendant le procès, on entend une cuillère qui tape dans une casserole. Et là, tu te dis, c'est quand même grotesque. C'est quand même vraiment grotesque.
Et là, c'est clair, on dirait, c'est grotesque.
Mais c'est grâce à la défense qu'on peut mettre en lumière aussi ces éléments, puisque les juges, qui ne sont malheureusement pas impartiales, n'ont comme base que les sélections et les interprétations de la DGSI qui sont toutes tournées contre les prévenus, les inculpés, quoi.
Mais en vrai, elles n'ont pas grand-chose, hein. On les voit, elles se dépatouillent avec vraiment très peu d'éléments. Elles paraissent un peu ridicules quand même à certains moments, moi je trouve.
Mais là-dessus, il y a un truc intéressant, c'est que la présidente du syndicat de la magistrature, qui réagissait par rapport justement à l'histoire de la Legal Team et le fait d'embarquer les avocats dans le groupe des accusés, finalement. Elle critique depuis longtemps la législation antiterroriste et son caractère, ouvrez les guillemets, dérogatoire. Donc ça, on en parlait hors antenne, mais on parlait des États-Unis depuis le 11 septembre et du Patriot Act, etc. Où, à chaque fois qu'il y a des crimes horribles de terroristes, on renforce les pouvoirs de police, et donc on affaiblit les droits des personnes, et donc ça peut aussi servir à attaquer des opposants politiques sous couvert d'accusations de terrorisme.
Moi, je voulais revenir sur quelque chose, justement, les droits et libertés des personnes, en fait, des individus, des gens. En fait, il y a le droit à protéger ses données numériques, notamment. Et ça, c'est un enjeu qui est assez important dans le procès. Ça a été soulevé à plusieurs reprises par la Quadrature du Net, qui du coup fait ce travail-là, en fait, d'aller défendre les droits des gens sur les questions numériques. Et donc voilà, il y a eu une tribune, il y a eu un article, il y a eu pas mal, enfin c'est pas mal documenté. Je vous invite à aller lire ce qu'a écrit la Quadrature du Net sur ce sujet, parce que là en fait, une des choses qui est reprochée aux inculpés, c'est soi-disant qu'ils mènent un mode de vie de clandestinité. Alors c'est ce mot qui est utilisé, donc on parlait de la sémantique tout à l'heure. Voilà, ça fait peur. La clandestinité, c'est quoi? En fait, c'est juste des personnes qui ont conscience que pour protéger leurs données, et ben plutôt elles n'utilisent pas forcément Google, plutôt elles vont pas forcément communiquer n'importe comment, elles utilisent certains logiciels qui font en sorte de sécuriser un minimum leur communication et leurs données. Et en fait, ça leur est retourné, c'est retourné contre elles et eux, comme soi-disant elles ont un mode de vie de clandestinité, et c'est un enjeu qui nous concerne tous et toutes de pouvoir juste défendre le droit à protéger nos communications. Enfin, c'est quoi? C'est utiliser Signal, même WhatsApp, voilà, c'est communication chiffrée, c'est des mails cryptés. En fait, on a vraiment besoin de pouvoir défendre ça, quoi.
Juste, je rappelle que Dupond-Moretti, quand il s'agit de certains à défendre la vie privée, il s'en empêche pas. Et quand il s'agit des Kidam qui défendent leur vie privée et qui souhaitent la préserver, là, il faudrait être transparent.
Je te sens un peu partisan, là, quand même.
Non,
t'aimes pas Darmanin, t'aimes pas Dupond-Moretti, mais...
On va devoir en antenne, là.
Eh ben, merci à vous. Si vous souhaitez qu'on poursuive la conversation à l'antenne, c'est possible.
Le procès en cours se termine le 27 octobre.
Ouais, on vous invite, si vous pouvez passer à Paris, si vous voulez venir, on fera un rassemblement le 27. On a besoin de montrer du soutien. On va s'organiser. N'hésitez pas à venir vers... vous pouvez écrire à comité Rennes 8 décembre à tryzeup.net si vous voulez, que vous voulez qu'on organise des covoites, si vous voulez qu'on se mette en lien pour y aller. On va mettre sur soutien812.net, vous pourrez retrouver les infos qui sont liées à cette affaire, vous pourrez retrouver de la documentation si vous voulez avoir le suivi du procès aussi sur Lundi Matin et sur Paris Lutte Info. C'est deux sites qui font le suivi du procès un peu au jour le jour. Donc ne nous laissons pas antiterroriser, on est ensemble face à ça, faut vraiment pas se laisser intimider.
Yes, on mettra tous les liens sur le blog Frisson.
Bandai!
Merci.
Cœur, bisous, à bientôt.
Salut.
Merci.
Salut. Ciao.
Peut devenir dangereux. J'attire trop les folas, j'attire trop les haineux. Produit dans la massa pour le plafond. Moi je suis ok pour du bénéf. Faudra raconter, je te brise ton cœur comme mon ok pour la support. Ça fait zizir. Rose, quiche de 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 rose.